14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Il y a eu deux morts et deux blessés dans l'attentat hier soir du boulevard Richard Lenoir à Paris, près de la place de la Bastille. Le meurtrier a fait feu et a tué les deux femmes avant de blesser deux passants, dont un policier en civil qui s'était lancé à la poursuite de l'assassin dont on sait seulement qu'il était assez grand et brun.
Bonjour. Pierre Goldman, ce seul nom porte à lui tout seul une saga criminelle entrée dans l'histoire et qui aujourd'hui encore recèle davantage d'ombre que de lumière. Le parcours solitaire d'un jeune révolutionnaire qui, sur les cendres de mai 68, va devenir un braqueur de haut vol, se laisser séduire par les armes, basculer dans le banditisme jusqu'à ce que du sang se mette à couler sur le parcours de ce hors-la-loi qui lit des ouvrages de philosophie. Il va être accusé d'avoir froidement exécuté deux femmes lors d'un hold-up d'une violence inouïe. Pierre Goldman, qui avait pour demi-frère le chanteur Jean-Jacques Goldman, va alors faire la une de tous les journaux, mais gardera la plupart de ses secrets, au point que même sa mort, aujourd'hui encore, reste une énigme. Comment le camarade Goldman est devenu Pierrot le braqueur ? Avait-il, oui ou non, du sang sur les mains ?
14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, le mystère Pierre Goldman. À l'hiver 1969, ce militant gauchiste de 26 ans, l'une des figures du mouvement étudiant, va se retrouver impliqué dans un braquage sanglant perpétré au cœur de la capitale. Ce 19 décembre 1969, les guirlandes de Noël clignotent aux devantures des commerces de la place de la Bastille à Paris. Sur le terre-plein central, une petite fête foraine illumine elle aussi le décor. Il est près de 20h et Simone Delaunay, la pharmacienne du numéro 6 du boulevard Richard Lenoir, est en retard. Avec sa jeune laborantine, Jeanne Aubert, elle s'affaire à servir un dernier client quand un homme fait soudain irruption dans l'officine. Il brandit une arme, un pistolet. Il veut se faire remettre la caisse. Il ne porte ni masque ni cagoule, il paraît jeune. Un couple qui rentre chez lui aperçoit cette silhouette. Le couple pense tout de suite à un braquage et se précipite au café du coin, le Jean Bar, pour donner l'alerte. Un jeune gardien de la paix en civil, Gérard Quinet, fonce vers la pharmacie sur le terre-plein. Il empoigne le braqueur qui s'enfuit. Les deux hommes se battent. L'homme laisse tomber son arme. Quinet croit avoir le dessus, mais le braqueur sort une deuxième arme et tire, le blesse au ventre. L'individu ramasse ses affaires et s'enfuit. Un quart de police secours arrive. Du sang sur le terre-plein, mais aussi dans la pharmacie. Suzanne Delaunay, 57 ans, et Jeanne Aubert, 26 ans, gisent devant le comptoir. 3 balles dans la tête et à la poitrine pour la première, 4 balles pour la seconde. Jeanne Aubert était maman d'une petite fille de 18 mois. Le client Raymond Trocard, 57 ans, est entre la vie et la mort. À la brigade criminelle, les commissaires Jobard, Sautreau et Leclerc s'interrogent sur cette attaque ultra-violente. Il n'était pas nécessaire de tuer les pharmaciennes, elles avaient ouvert la caisse. Le braqueur a utilisé 2 pistolets automatiques, un P38 9 mm pour le carnage, un Mac 50 lors de la bagarre avec le gardien de la paix. Celui-ci, rescapé, est entendu. Il jure qu'il pourrait reconnaître à 100% le tueur. Le client, lui aussi miraculé et très précis, il décrit un homme d'1m70, entre 25 et 30 ans, casquette, imperméable sombre, peau mate, un méditerranéen. L'examen des planches photographiques ne donne rien. 4 mois après le braquage, un indice livre des informations. L'auteur des faits serait un certain Goldie. 28 mars 1970, un deuxième indice dénonce un dénommé Pierrot, logé dans un studio prêté par un ami chanteur rue de la Butte aux Cailles, 13e arrondissement. De fil en aiguille, la crime identifie le suspect, un dénommé Pierre Goldman, 26 ans. Elle dispose d'une photo de jeunesse de l'individu. Le gardien de la paix, Gérard Quinet, reconnaît formellement l'homme de la pharmacie. 8 avril 1970, Pierre Goldman est interpellé dans le quartier latin rue de l'Odéon en possession d'un faux passeport vénézuélien. Il est aussitôt placé en garde à vue. Il dément toute participation dans la tragédie de la pharmacie. Il était ce soir-là certes pas très loin de la place de la Bastille, chez un ami antillais rue de Turenne. Il y est resté jusqu'à 21h. Le commissaire Marcel Leclerc n'a pas en face de lui un client ordinaire. Goldman s'exprime avec finesse, élégance, il est très intelligent. Il ne cache pas ses idées révolutionnaires, c'est un antifasciste viscéral. Il a dirigé le service d'ordre de l'UNEF et de l'Union des étudiants communistes, a multiplié les voyages en Amérique latine, Cuba, le Venezuela, où il s'est immergé dans la lutte armée. Les armes pour faire la révolution, certainement, admet Pierre Goldman. Mais pour tuer deux pharmaciennes, jamais. Pierre Goldman dément avoir participé au braquage sanglant de la pharmacie. Les policiers sont persuadés du contraire. Ils n'ont pas de preuves, mais un faisceau de témoignages accablants. Pas moins de 6 témoins présents place de la Bastille le 19 décembre 1969 ont identifié Pierre Goldman comme étant le braqueur de la pharmacie. Lors d'une présentation derrière une glace sans teint à la crime, le gardien de la paix Gérard Quinet l'a tout de suite désigné. Idem pour le client blessé Raymond Trocard. Lui a même reconnu sa voix. Des passants et un homme qui n'a pourtant vu sa silhouette que du quatrième étage d'un immeuble pointe du doigt Pierre Goldman. Face aux policiers, le jeune homme continue à dire qu'il n'a rien à voir avec cette tuerie. Il admet tout de même être l'auteur de 3 autres braquages, confirmant ainsi les révélations des indices. Une pharmacie le 4 décembre, une boutique de prêt-à-porter le 20 décembre, puis l'attaque d'un homme qui transportait dans une sacoche la paye de certaines allocations. La crime ne manque pas de témoins, mais ne dispose d'aucune preuve formelle. Il faudrait tout de même un élément matériel pour boucler le dossier, martèle le commissaire Jobard. Des écrits sur les armes signés Goldman et 2 automatiques, un Walther P38 et un Herstal, sont saisis chez un ami, mais ces pistolets n'ont pas servi pour l'attaque de la pharmacie. Pendant 4 ans, 3 juges d'instruction vont se succéder aux commandes du dossier Goldman. Son père, Albert Goldman, parle d'un garçon difficile, instable, imprévisible, mais pas enclin à tuer quelqu'un. Les psychiatres décrivent une personnalité fragile qui peut connaître des accès d'humeur paroxystiques. Dans une certaine mesure, il serait dangereux. L'enquête fait du surplace. Aucun nouveau témoignage, aucun indice. Le suspect est incarcéré à Fresnes, parenthèse carcérale au cours de laquelle il reprend ses études, prépare 2 thèses de doctorat, passe une licence de philosophie. C'est un détenu modèle, félicité par l'administration pénitentiaire. Ses amis de gauche ne l'ont pas oublié. Ils échangent des lettres, le visitent au parloir. Ils le considèrent comme un bouc émissaire, un homme qui va être jugé sur ses convictions, sa réputation, et non pas sur les faits. Le 9 décembre 1974, Pierre Goldman comparaît devant la cour d'assises de Paris, accusé de 3 braquages, mais surtout des meurtres des 2 pharmaciennes. Il risque alors la peine capitale, toujours appliquée à l'époque. L'ambiance est électrique dans le public pour le soutenir, des amis de la gauche prolétarienne, des intellectuels, même l'actrice Simone Signoret est là. Goldman est péremptoire, ses paroles claquent, il n'a pas tué. Il dit connaître le fameux informateur appelé X2 dans la procédure qu'il a balancé, mais il refuse de donner son nom. Le commissaire Leclerc refuse également. Les audiences tournent au statu quo jusqu'à l'entrée en scène des témoins de la place de la Bastille. Le client de la pharmacie, Raymond Trocard, n'est pas là. Il est décédé accidentellement, une noyade. Le gardien de la paix, Gérard Quinet, lui, est présent et formel. Goldman est le braqueur. Il stupéfie les jurés avec cette exclamation « On n'oublie pas le visage d'un homme qui vous tire dessus à bout portant ». Quinet est accusé de mensonge, mais il ne se démonte pas, les amis de Goldman grondent. Le 14 décembre 1974, à 10:30, après 2h40 de le délibéré, le verdict tombe, perpétuité. Les insultes fusent à l'encontre des jurés, antisémites, racistes, salauds, assassins. Dans ce brouhaha, Pierre Goldman se dresse dans le box, hurle à son tour avant d'être emmené par les gardes. La pression ne va pas se relâcher autour du cas Pierre Goldman, affaire qui va devenir de plus en plus politique et lourde à porter pour le pouvoir. Pas d'appel possible à l'époque, mais il y aura bien pourtant un deuxième procès.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL.
Et à 2h10, c'est le standard qui est monté et qui m'a dit « Je viens d'entendre un type qui a été tué dans le 13e arrondissement de Paris ». Et on dit qu'il se pourrait que ce soit Pierre Goldman. Et j'ai dit, c'est incroyable, c'est tout à fait possible. Il devait chercher un métro ou un taxi pour venir déjeuner avec moi.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Pierre Goldman. En décembre 1974, ce militant révolutionnaire, soutenu par une bonne partie de la gauche, a été condamné à la perpétuité pour le meurtre de deux pharmaciennes. Ses amis, puissants, ne veulent pas en rester là. Le comité justice pour Pierre Goldman se démène pour obtenir un deuxième procès. Le pouvoir, ennuyé avec ce dossier qui fait beaucoup trop de bruit et attise une extrême gauche alors puissante, y serait plutôt favorable. La Cour de cassation, saisie, casse le premier verdict pour vice de forme. Le 26 avril 1976, Pierre Goldman comparaît ainsi devant une deuxième cour d'assises, celle de la Somme à Amiens. On en aurait presque oublié les accusations de crime, tant l'accusé montre un visage d'intellectuel plus que respectable. En prison, il a écrit un premier livre, Souvenir obscur d'un juif polonais né en France, salué par la critique et inscrit sur la liste des Goncourt. Le tout Paris des intellectuels de gauche est à l'audience. Cette fois, la défense est bien plus mordante qu'au premier procès. Le jeune avocat Georges Kiegemann démonte un à un tous les témoignages. Celui de l'homme du quatrième étage est balayé. Même le témoin numéro 1, le gardien de la paix Kiné, est déstabilisé. L'avocat fait circuler une photo. Tout le monde reconnaît le visage de Goldman. C'est en fait celui d'un comédien. Le jeu des ressemblances a parfaitement fonctionné. Le doute est entré aux assises. La police est assiégée. Elle doit reconnaître qu'elle n'a pas de preuves. Toutes les audiences sont ainsi favorables à un accusé qui, cette fois, écoute calmement les débats. Le 4 mai 1976, les jurés se retirent pour délibérer. L'avocat général a demandé la confirmation de la peine de perpétuité. Après 3 heures de huis clos, le jury rend son verdict. Pierre Goldman est coupable de 3 hold-up avec circonstances atténuantes, mais il est reconnu innocent pour les meurtres des pharmaciennes. Il est acquitté. Il écope ainsi de 12 ans de prison pour les braquages, une peine qui apparaît presque anecdotique. L'intéressé a déjà passé 6 ans derrière les barreaux. Il sait qu'il quittera bientôt sa cellule de la maison d'arrêt de Fresnes. Pierre Goldman ne va passer que quelques mois supplémentaires en détention. Il va sortir et se fondre dans les milieux intellectuels, cultiver quelques liaisons dangereuses au point de devenir peut-être une cible. Ce 5 octobre 1976, Pierre Goldman quitte la maison d'arrêt de Fresnes. Ses amis de l'extrême gauche se réjouissent de cette libération. Goldman, intellectuel vif et charismatique, se lance dans l'écriture d'un deuxième roman. Il travaille aussi un temps pour les journaux qui ont soutenu sa cause et fait de lui une victime du système, la revue Les Temps modernes de Jean-Paul Sartre, ou encore le quotidien Libération, collaboration souvent orageuse. L'homme a 32 ans, il s'est marié juste avant de sortir de prison à une Guadeloupéenne. Il n'a pas beaucoup d'argent, vit d'expédients et de petits boulots, fréquente le monde de la nuit et ne cache pas sa fascination pour les grands truands. Autour des tables de poker, il revoit des malfaiteurs qu'il avait connus en prison, comme Charlie Bauer, l'un des lieutenants de l'ennemi public numéro 1, Jacques Mesrine. Il joue les intermédiaires, rend des services, ne tient pas toujours ses promesses et ne se fait pas que des amis. Le 20 septembre 1979, vers 12h15, 3 ans après sa sortie de prison, Pierre Goldman quitte son domicile, passage Trubert-Bellier, dans le 13e arrondissement de Paris. Il ne voit pas les 3 hommes jeunes en blouson de jean qui marchent vers lui. 2 dégainent leurs pistolets et tirent. Goldman reçoit 7 balles de P38 et de Mac 50, ses armes de prédilection. Il est touché au ventre et à la poitrine. Il s'écroule quelques mètres de l'hôpital de la Croix-Rouge. Des témoins diront que les tueurs introuvables conversaient en espagnol. La crime pense à un règlement de compte du milieu. À 13h, une mystérieuse organisation d'extrême droite, Honneur de la police, revendique l'exécution dans un communiqué. Pierre Goldman a payé ses crimes. La justice du pouvoir ayant montré une nouvelle fois ses faiblesses et son laxisme, nous avons fait notre devoir. L'enquête sur la mort de Pierre Goldman va longtemps se poursuivre, éclairant une personnalité toujours plus déroutante, habituée à la clandestinité et au secret. Après la mort de Pierre Goldman, la crime va tenter de remonter la piste de ces mystérieux assassins. L'hypothèse du commando d'extrême droite, le fameux groupuscule Honneur de la police, va être étudiée sans vraiment convaincre les enquêteurs. Le gardien de la paix, Gérard Kiné, le témoin qui avait formellement reconnu Goldman comme le braqueur de la pharmacie, va être convoqué au Quai des Orfèvres. Il avait fait savoir qu'il était révolté par l'acquittement et aurait donc pu vouloir se venger. Hypothèse non fondée. La police va se plonger dans des eaux beaucoup plus sombres, celles des services secrets espagnols qui auraient exécuté Goldman, celui-ci étant à leurs yeux un trafiquant d'armes travaillant pour les indépendantistes basques de l'ETA. Les pistes du milieu marseillais, mais aussi celles de la DST, le contre-espionnage français, ou des renseignements généraux, des services qui auraient voulu faire la peau de cet activiste, ces pistes ne donnent rien, même si Pierre Goldman aurait pu naviguer finalement dans tous ces cercles. La mort de Pierre Goldman ne sera jamais élucidée. Les meurtres brutaux des deux pharmaciennes du boulevard Richard Lenoir resteront également des crimes sans coupable. 50 ans après, le mystère Goldman perdure.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.